Les contes de Wilfrid. Comment s'appelle le prochain conte, Wilfrid ?
J'hésite entre deux, mais vraiment, là, je crois que j'ai envie de vous faire un bout de mythologie. Alors, évidemment, je l'ancre dans une légende encore. Et on pourrait parler des songes de Pyrène. Au début, il n'y avait rien. Ni homme, ni animaux, ni arbres, ni légumes, ni fruits, ni fleurs. Rien, il n'y a rien. Rien n'existait. Le chaos. Même pas rien. Les ténèbres, la nuit noire. Et des ténèbres a émergé chaos, le chaos. Chaos est arrivé à ce moment-là. De chaos, il est sorti Gaïa, la terre. Les Grecs racontaient il y a plus de 3000 ans en arrière que Gaïa, la terre, était leur grand-mère à tous. Et même... C'était notre grand-mère à nous aussi, hein, bien sûr. Hein, Gaïa la Terre, c'est ma grand-mère, il n'y a pas de doute. Gaïa la Terre, il y a eu avec elle Eranos. Et Eranos et Gaïa la Terre, ils se sont unis. Et de là sont apparus les titans. Mais à chaque fois que Gaïa la Terre donnait naissance à un titan, Eranos demandait à Gaïa de lui donner et il les avalait. Les uns après les autres. Il avalait tous les titans. Et Eranos, aussi immense qu'il était, avalait les uns après les autres tous les titans qui grandissaient à l'intérieur de lui. Jusqu'au dernier, Cronos. Là, Gaïa la Terre, elle a dit, oh, maintenant ça suffit. Celui-là, il ne l'aura pas. Et elle a fait en sorte qu'il puisse rester dehors, grandir à l'extérieur. Quand il fut assez grand, il est allé voir son père, Eranos, et il l'a tué. Oh, je sens que là-dedans, il y a de la symbolique, hein, ceci dit. Hein, mais bon. Donc, son père a tué... Cronos a tué Eranos. Et Cronos s'est accouplé avec Gaïa, la Terre. Ils se sont accouplés et ils ont mis au monde tous les dieux. Les dieux, les uns après les autres, sont nés. Et à chaque fois, Cronos, il le savait comment ça se passait. Il ne fallait absolument pas que les enfants vivent à l'extérieur de lui. Alors, il a fait en sorte de les prendre et de les avaler. À chaque fois que Gaïa la Terre mettait au monde un dieu, et hop, il les gobait. Jusqu'au dernier, Zeus, le dieu des dieux, comme on dit, de par chez nous. Zeus, ben quand il est arrivé, Gaïa la Terre, elle a dit non, celui-là, il ne l'aura pas. Celui-là, il vivra à l'extérieur. Elle a mis un gros rocher dans le lange, et puis il a gobé le rocher à la place de son fils. Et Zeus, comme ça, a pu grandir à l'extérieur. Suffisamment grand, Zeus a émasculé Cronos, son père, et il a fait sortir tous les dieux. Et c'est ainsi que les Grecs racontent, il y a plus de 3000 ans, qu'une grande guerre est intervenue entre les titans et les dieux. Ça a duré 100 fois 100 ans, alors les matheux là, 100 fois 100 ans, ça nous fait quoi ? 10 000 ans, voilà. Ça a duré donc, selon les Grecs, 10 000 ans. Pendant 10 000 ans, ils se sont battus et les dieux ont gagné. Ils se sont installés sur la terre et un peu de partout dans le ciel. Ils se sont installés, ils avaient la place pour eux. Il y en a qui ont décidé de rentrer dans la terre. Hadès, qui a choisi en premier d'aller dans la terre. Et puis, il y a eu le dieu de la mer, là. Comment il s'appelait celui-là ? Poséidon, merci Rulio. Poséidon qui lui a pris toute la mer et Zeus, tout ce qu'il y avait au-dessus de la terre. Et il était bien, et dans le ciel, il était bien. Et c'est comme ça qu'ils étaient heureux. Et puis Zeus, vous savez, il aimait fricoter avec les belles. Et il y avait sa sœur. Ah oui, ils étaient tous frères et sœurs. Hein. La belle Héra. Héra, elle avait de grands bras blancs. Héra, la jalouse. Héra, il s'est transformé en un petit oiseau pour venir la charmer, en un coucou, je crois que c'était. Et en se transformant en coucou, Héra, elle est tombée sous le charme et elle a bien voulu avoir pour mari Zeus. Et c'est comme ça que tous les deux, eh ben, ils ont passé du bon temps ensemble. Mais Zeus, il aime bien les fricoter. Et quand les hommes ont été créés, et surtout quand Zeus a créé la première femme, la belle Pandore, celle qui est toute en or, Et puis le temps a passé, les hommes se sont accouplés et de belles femmes sont venues. Et il y a eu Alcmène. Alcmène, c'était une reine de Thèbes. Son mari avait tout Thèbes à sa portée. C'était lui qui combattait et il gagnait. Et quand il a vu la belle Alcmène, Zeus, il a voulu la charmer. Alors il s'est transformé en coucou, lui qui pouvait se transformer en tout et n'importe quoi. Il est venu, mais Alcmène, ça lui a plu. C'est un bel oiseau, mais pas du tout charmé pour coucher avec un coucou. Non, ça Alcmène, elle n'en avait pas du tout envie. Alors il a cherché et puis il a décidé de se transformer en son mari. Le jour où le mari a fini sa guerre, ce jour-là, il était en train de fêter la victoire avec toute sa garnison. Et puis lui, il est venu frapper, Zeus est venu frapper à la porte, transformé en son mari, disant qu'il venait fêter la victoire. Mais que tu viens fêter la victoire, mais avec grand plaisir. Accueille Alcmène, pensant que c'était son mari, elle lui prépare un bon repas et ils font l'amour toute la nuit. Au petit matin, il s'en va et le soir suivant, son véritable mari arrive. Il frappe à la porte en disant qu'il venait fêter la victoire avec elle. « Ah bon ?» se dit-elle. « Mais je croyais l'avoir déjà vécu hier. Mais enfin, si tu es aussi vigoureux, pourtant, cette nuit, allons-y. » Et ils ont fait l'amour encore toute la nuit. Et c'est comme ça que, quelques mois plus tard, elle a mis au monde deux fils, Héraclès et Iphiclès. Héraclès était fort, ne pleurait pas. Iphiclès, un peu plus menu, était un peu plus fragile. Mais Héra la jalouse, quand elle a vu que Héraclès est né, une colère lui est montée. Elle a décidé de se venger. Oh, elle savait très bien que Héraclès venait bien de Zeus. C'était son fils. Alors, elle a envoyé deux énormes serpents pour descendant de l'Olympe pour le tuer. Les deux serpents sont arrivés dans la nuit. Le père, voyant les deux serpents, s'est enfui. Iphiclès, en se réveillant, l'a vu et, de peur, a sauté du landau et est parti à quatre pattes le jour de sa naissance, mort de peur. Héraclès, lui, il n'a pas bougé. Il a attendu les deux serpents arriver. Les deux serpents sont arrivés dans la nuit, sont montés sur son landau et là, avec une main, il en a attrapé un, avec l'autre main, il a attrapé l'autre serpent. Et il a serré si fort que quand il a lâché, ces deux serpents descendus des dieux sont morts, étouffés. Mais Héraclès, malgré qu'il était le fils de Zeus, était mortel. Pour devenir immortel, il fallait qu'il boive le lait du sein de Héra la jalouse. Mais ça, Héra, il n'en était pas question. Alors, par un certain stratège, un des dieux l'a emmené dans l'Olympe, l'a déposé sur le lit de Héra la jalouse, endormi. Le bébé, en sentant ce lait, même endormi, a cherché le sein de Héra et a tété. Mais vous imaginez un enfant qui réussit le jour de sa naissance à tuer deux serpents qui descendent de l'Olympe avec ses mains à les étouffer, à un moment où il a tété le sein de Héra. Il a tété si fort que Héra s'est immédiatement réveillée. D'un coup, elle l'a jeté au sol, mais le lait est parti dans le ciel. Et les Grecs racontent que c'est depuis ce jour que l'on peut voir en pleine nuit la voie lactée, du lait de Héra la jalouse. Une goutte de lait est tombée dans la bouche de Héraclès. Ainsi il sera immortel et plus tard, à la fin de sa vie, on le ramènera dans l'Olympe avec tout ce qu'il a vécu, le pauvre Héraclès. Toute sa vie, il a été embêté par Héra. Il a été tellement embêté par Hera que c'est ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il s'est marié, Héraclès, et là, il a eu des enfants, et Hera, toujours jalouse, a attendu un moment, et elle a réussi à le rendre tellement fou que il a tué de ses propres mains ses enfants par une folie qui l'a aveuglé complètement. Il a tué ses enfants et sa femme, et pour être puni, il devait faire les 12 travaux. Les 12 travaux d'Hercule, les 12 travaux d'Héraclès, qui au départ étaient 10, mais comme il se fit aider pour 2 des travaux, alors on lui en rajouta 2 autres. Et là où je voulais en venir, c'est pour vous raconter le 10e des travaux. Donc le premier, c'était le lion de Némée. Après, il y a eu l'hydre de Lerne, je crois que c'est le 2e. Il a couru après une gazelle pendant 1 an. Il en a vécu des histoires comme ça, les uns après les autres. Et il les faisait pour purger sa trahison qu'il avait faite. Et arrivé au 10e, il devait aller chercher les bœufs de Gérion. Pour aller chercher les bœufs de Gérion, il devait traverser toute la Méditerranée pour aller de l'autre côté. À cette époque, la Méditerranée était fermée entre ce qu'on dit aujourd'hui l'Espagne et ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. Les deux terres étaient réunies. Et pour traverser, donc, on l'a aidé par Hélios. C'était le dieu du soleil qui, à cette époque, on savait que la Terre était ronde, mais on pensait qu'elle était plate. C'était un disque, on pensait que c'était un disque. Et donc, il traversait comme ça pour expliquer que le soleil revenait toujours au même point le matin. Eh bien, dans la nuit, il rentrait dans un nénuphar énorme et retraversait la Méditerranée caché dans ce nénuphar. Et comme ça, au petit matin, il pouvait réapparaître et repartir vers le fond de la Méditerranée. Et donc, c'est dans ce nénuphar qu'il a fait la traversée. Et arrivé au détroit, là, au détroit de Gibraltar, qui était à cette époque fermé, eh bien, Hercule, Héraclès, avec sa force de titan, a écarté les deux continents. Il a écarté, et pour preuve, aujourd'hui encore, on peut voir les deux colonnes d'Hercule de part et d'autre de cette Méditerranée. Et c'est ainsi que Héraclès est allé du côté du Portugal, sur l'île de Gérion, et sur l'île des Gérions, il est allé chercher les bœufs de Gérion. Pour cela, il a dû combattre Gérion qui avait... on dit de Gérion que c'est grâce à lui que l'opéra est arrivé. Vous les musiciens, j'imagine que vous le saviez tout ça, hein. Évidemment. Hein. Et donc, c'est Gérion qui le premier avait cette voix aussi lyrique, parce qu'il avait en fait 3 troncs et 3 gorges pour pouvoir chanter. Et Héraclès, il a dû le tuer, et pour le tuer, il a pris une flèche trempée dans l'hydre de Lerne, une flèche empoisonnée qui tuait instantanément, et il a tiré, et la flèche a traversé les 3 têtes ou les 3 cœurs de Gérion, je ne sais plus, et ainsi Gérion est mort sur le coup. Et c'est comme ça que Héraclès est revenu avec les bœufs, et pour cela il est arrivé sur le continent, et il a traversé toute l'Espagne là, et en arrivant à ce qu'on appelle aujourd'hui les Pyrénées, cette belle chaîne de montagnes, là il y avait une femme, une jeune femme, assise sur le seuil de sa porte, qui rêvait à un beau jeune homme. Un jeune homme, comment dire, beau, hein, fort, gaillard, souriant, un beau jeune homme qui ne s'endort pas comme ça, hein, vraiment un jeune homme qui avait une belle énergie comme ça. Et elle rêvait toujours à lui, de lui, et puis son père à ce moment-là est sorti, dit, il ne faut pas rêver comme ça, hein. Sinon, tu vas attirer les mauvais esprits. Ouh, attirer son esprit, ah ça oui. Ah, elle en avait vraiment envie d'attirer son esprit, quand tout à coup, devant elle, un beau jeune homme, grand, fort, souriant. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Hercule. Mais déjà, le père s'est mis entre lui et sa fille. Je suis seulement de passage. J'ai désir avoir un peu d'eau avant de continuer ma route. Et c'est comme ça qu'il commence à raconter ses aventures pendant que Pyrène lui sert de l'eau. Elle lui sert de l'eau et elle le regarde avec de tels yeux qu'à la tombée de la nuit, Le jeune homme est revenu. Et tous les deux, ils se sont mis à rêver qu'il serait le plus beau berger de toute la région, qu'elle serait la plus belle fileuse de laine de toute la région, qu'ils auraient les plus beaux moutons de toute la région et même les plus beaux enfants de toute la région. Et ça a duré de nuit en nuit, enfin tout l'été. Les nuits les plus chaudes, ils allaient se baigner au torrent et puis tous les deux s'enlacer, s'embrasser, se bisouiller, se chatouiller, se bégoter, se tripoter, se taiser. Ça a duré toute la nuit, quoi, hein. Jusqu'à l'automne, ça a duré. Une nuit, Héraclès attendait sa bien-aimée qui n'arrivait pas. C'était l'automne, il faisait un peu froid. Il regardait le ciel et puis là, il voyait des oies sauvages partir en direction de son pays, vers l'ouest, loin là-bas. Les nuages filant à toute vitesse. Il n'en pouvait plus. Il voulait retrouver son pays. Comme pris d'un coup de folie, il est parti. Il est parti, il a abandonné sa bien-aimée. Il l'a quittée, il s'est mis à courir à toute vitesse. Il s'est mis à traverser la forêt, à laisser Pyrène, à l'oublier. Il avançait toujours. Et Pyrène, quand elle est arrivée, elle a bien vu qu'Héraclès était là, qu'Hercule était là. Elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche, elle l'a appelé. Une fille, mais que se passe-t-il? Mais elle a commencé à dire, mais il faut qu'il sache. Pyrène attendait un bébé. Alors, elle a décidé de partir. Elle a compris. Elle est partie, elle a traversé la forêt. Elle a commencé à avancer dans la forêt. Mais les ronces, la boue, la nuit. Pyrène s'effondrait, se relevait. Elle avait un bâton pour lutter contre les bêtes. Elle l'avait au départ allumée, c'était une torche. Et puis elle avançait. Et puis après, la torche éteinte, elle essayait de les faire fuir, mais elle trébuchait, se relevait. Mais tellement c'était difficile qu'à un moment donné, elle n'en pouvait plus, elle s'est effondrée. Les loups se sont rapprochés encore et encore. Pyrène a tout fait pour lutter avec son maigre bâton. Et juste avant de le lâcher, elle s'est mise à hurler. À hurler si fort que Hercule, de l'autre côté de la forêt, de l'autre côté de la montagne, elle l'a entendu. Il l'a entendu. C'est elle. Elle m'appelle. Il faut que je revienne. Alors, il s'est mis à courir. Il a couru très vite. Mais quand il est arrivé, il était trop tard. Il a trouvé que des loups rassasiés et la dépouille de sa bien-aimée. Alors lui aussi a hurlé de fureur et de douleur. Il était tellement en peine qu'il a voulu faire une sépulture. Sa peine était si lourde qu'il a transporté des rochers de plus en plus gros. Sa peine était si grande qu'il a fini par créer des montagnes, toute une chaîne, tout le long entre la Méditerranée et l'océan. Cette chaîne de montagnes, il y a mis le feu. Et depuis ce jour, les marins, en passant près, disent que c'est la montagne de cette bien-aimée, oubliée par son amant. Ouais, tu vois, c'est les histoires tristes, hein. Les légendes comme ça, elles sont toutes tristes, plus les unes que les autres. Elles sont faites pour marquer le coup, hein, quand même.
Mais c'est très beau, en tout cas.
Ah, c'est bon, ça, c'est une bonne histoire.
Très, très beau.
Ah, super, merci.
Merci beaucoup, Wilfried,
ouais,
pour ces histoires.
Merci à toi, Rulio, de m'avoir accueilli.
Et puis, peut-être une prochaine fois, je l'espère, en tout cas.
Oh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait ce répertoire des Nasreddin là, qui nous fera un peu plus rire. Là. C'est un petit peu plus décalé. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir.
J'espère aussi. En tout cas, je vois que tu en as plein dans tes bagages, des histoires et des contes comme ça. Et puis, j'espère que tu viendras nous en raconter d'autres pour des moments très intimistes. Comme ça, j'ai adoré, en tout cas. Merci beaucoup.
Merci, Olivier.